ربي يا مولاي ربي سيدي ربي مولاي لا اله الا الله يا ربي او ربي يا مولاي ربي سيدي ربي مولاي لا اله الا الله يا بابا جيك نلخوك لا اله الا الله لا نسمح ولا نرفع لا اله الا الله يا بابا او ربي مولاي سيد ربي مولاي يا ربي يا مولاي سيد ربي مولاي.
Bonsoir, bonsoir. Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Retour sur Enquête de cinéma. On est sur Radio Galère, 88.4, si vous êtes en bande hertzienne. Vous pouvez nous écouter en podcast aussi. Ce soir, on est avec Edouard Milsafis. Eddie, je salue. Merci d'être là.
Merci à toi.
Merci Sidi pour la technique. Notre ami Lolo s'excuse de ne pas être là avec nous ce soir. Voilà, on lui souhaite un bon rétablissement. Nous revoilà de nouveau sur Enquête de cinéma.
Zid le mal, nana ya zid le mal, eh zid le mal, nana ya zid le mal, eh sirukan, ana dnia bel mal, dem Allah, Allah Allah, afo ya zid le mal. ومن رحلت ومن غدرت تزيد المال دايم الله ربي لفو يزيد المال دايم الله وانا نفرح وما يلا يزيد المال يزيد المال انا الدنيا بالمال دايم الله الله انا يزيد المال يزيد المال انا يزيد المال
Eddy, rebonsoir. Edouard Mills, affiche et documentariste, spécialiste de l'immigration et des questions de société. Il enseigne l'histoire et la télévision, de l'histoire de la télévision et des techniques audiovisuelles. Il est docteur en histoire et auteur de Filmer les immigrés, ce document de recherche paru dans les éditions de l'INA en 2004. Eddy est multi-polyvalent, il est surtout maître de conférences. Il écrit dans les écritures du monde contemporain. Il est enseignant, chercheur, d'abord au Canada, ensuite à l'Université Paris Diderot. Il réalise plus d'une quinzaine de documentaires. J'ai essayé moi-même, Eddy, sincèrement. J'ai essayé de faire une liste comme ça des films. C'est vrai que la plupart des films, en tout cas, on peut les visionner. En tout cas, on peut voir des extraits de tes films. Si tu peux nous parler, pour commencer l'émission, ta première formation aux ateliers Varan. Pour commencer.
Oui, je fais les ateliers Varan. En fait, c'est une école de documentaire,
oui,
qui est à Paris, qui a été fondée par Jean Rouch, donc le maître de l'anthropologie visuelle. Et en fait, ça a été important pour moi, cette formation, parce que j'avais envie de faire des films. Et à chaque fois, je proposais des projets. On me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, non, j'ai rien fait, mais si vous n'êtes pas les premiers à me donner une chance pour faire, je ne ferai jamais. Et en fait, cette école m'a permis de me décomplexer par rapport aux outils techniques et surtout de faire un premier film et donc de pouvoir montrer quelque chose, en fait. Et donc ça a été comme une pierre initiatique, en fait, comme un rituel d'initiation où voilà, faut toujours poser la première pierre. Et ça, c'est vrai en... C'est vrai quand on fait des films, c'est vrai quand on fait de la musique, c'est vrai partout. C'est-à-dire que espèce de rituel d'initiation d'être intronisé dans un médium et d'avoir quelque chose à présenter. Quoi. Donc, la première initiation, c'est comme la première fois qu'on saute dans une piscine. On a peur de sauter parce qu'on se dit, est-ce que l'eau elle est froide? Est-ce que je ne vais pas couler? Est-ce que je ne vais pas... Machin. Et en fait, on saute et on se dit, ah, c'est pas si pire que ça finalement, c'est pas si terrible que ça. Et la deuxième fois, quand on ressaute dans la piscine, on y va toujours avec une petite appréhension, en disant, est-ce que l'eau va être froide, est-ce que... Et en fait, et on y va quand même parce qu'on sait que c'est pas si terrible. Voilà. Donc voilà, ça m'a permis de faire un premier pas.
Dans ton ouvrage, Eddie, dans ton ouvrage... Tu dis que c'est une immersion dans la mémoire de la télévision. On parle de filmer les immigrés, représentation audiovisuelle de l'immigration à la télévision française entre 1960 et 86 dans les éditions INA. Ton premier film, il est Bassin miné, il commence à peu près en 2006, 2 ans après. Alors que tu es en plein travail de recherche, et tu dis ça, que je me suis posé la question simple, en quoi l'examen des archives audiovisuelles peuvent-ils éclairer la connaissance du phénomène migratoire en France? Ça devait déjà, il y avait 20 ans déjà après premier questionnement sur la place de l'immigré. Aujourd'hui, on parle de migrants, puis on parle des réfugiés, pour faire des distinguos entre les populations, etc. Déjà, comment, toi, Eddie, comment t'en es arrivé là? On sait très bien que dans le tour de Marseille, il y avait déjà la montée d'une scission du Front National à l'époque. C'était les Maigret qui s'installaient dans le sud, et toi, tu pars, tu nous fais voyager dans le nord. Dans le bassin minier du Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, où il y a un phénomène qui s'amplifie après la fermeture des mines de charbon. Et tu commençais déjà à faire ce travail de prospection sur le bassin minier de Hénin-Beaumont, dans le nord Pas-de-Calais. Ta première image que tu nous parles de qu'à l'écran le migrant a été synonyme d'oppression. Et, mais c'est pas la première fois que le phénomène. Déjà en 1917, Charlie Chaplin, dans son jeu du migrant.
Magnifique film.
Il y avait déjà, tu dis, un condensé de représentation cinématographique de l'immigration du XXe siècle qui allait.
Dans ce film, je ne sais pas si tu as les images en tête, en fait, donc ça s'appelle Le Migrant, The Migrant. C'est un film qui fait en 1917, Charlie Chaplin.
Qui arrive devant la Statue de la Liberté à New York.
C'est ça, c'est ça.
Le mot liberté plein la tête.
C'est ça, et en fait, tu vois, on est sur le bateau, en fait, qui arrive à New York, donc avec tous ces visages d'immigrants qui ont l'espoir d'avoir une vie meilleure, de construire une vie meilleure. Et dès qu'ils posent un pied à terre, en fait, ils sont parqués comme du bétail. Et en fait, c'est quelque chose d'universel. C'est en fait le rêve et la déception qui accompagnent le rêve, en fait. C'est ça qu'il a, il a su capter très, 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 très tôt. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours, en fait, c'est toujours ça, les migrations. Ça part d'un rêve. On en parle toujours comme une souffrance, comme quelque chose de terrible, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a le rêve à la base de tout. Alors, un rêve déçu, parfois, un rêve accompli aussi, parfois. Mais il ne faut jamais oublier ça, qu'il y a une espérance derrière le fait de quitter son pays, le fait d'abandonner sa terre, d'abandonner les siens, sa mère, et de venir dans un pays dont on ne parle pas la langue, dont on ne maîtrise pas les codes. Et donc si, malgré tout ça, il n'y a pas cette espérance qui peut leurrer, qui peut être une illusion, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui est au cœur de tous ceux qui veulent partir. Et puis alors après, non, tu as aussi ceux qui partent à cause de la guerre. Là, ce n'est pas l'espérance qui les fait partir, c'est la terreur.
Je préfère, Eddy, si tu le permets, avec Sidi, de nous faire passer un premier extrait du Bassin miné, premier film.
Ah non, c'est pas mon premier film.
Oui.
C'est pas grave, mais c'est pas du tout mon premier. J'en ai fait avant, mais non. Mais c'est un film important pour moi, ça
oui.
C'est sûr.
Oui. Ouais. Non, mais je me rappelle, tu m'avais dit quelque chose sur Bassin miné. Tu m'as dit à ce sujet, c'est une facture classique sans grande originalité. Mais ce film est ma plus belle bagarre.
Ah, ouais.
Tu peux nous envoyer le premier extrait, s'il te plaît, Sidi. Merci.
C'est un sentiment étrange de se réveiller dans une ville qui, la veille, s'est donnée au Front National. J'étais revenu à Hénin-Beaumont pour filmer les élections municipales de mars 2014. Cela fait plus de 10 ans que je m'intéresse à la vie politique de cette commune, logée au cœur de l'ancien bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais. Devenue célèbre pour être le laboratoire du Front National, le fief de Marine Le Pen. C'est ici que furent expérimentés tous les ingrédients de la conquête frontiste en terre ouvrière. La seule inconnue de cette campagne était de savoir si Steve Briouat serait élu au premier ou au second tour. Et ce fut dès le premier tour.
Voilà, dans ce film, pour faire un petit résumé, c'est l'histoire de la ville du nord, au nord de France, Hénin-Beaumont, qui s'est donnée au Front National au premier tour des élections municipales en 2014. Mais... toi, Eddy, tu avais filmé 12 ans auparavant pour arriver à ce moment fatidique. Tu peux nous raconter un peu.
Ouais. J'arrive en...
En 2003.
2003, là-bas. Oui. Au moment donné, la fermeture d'une grande usine qui s'appelle Metal Europe, où du jour au lendemain, il y a un groupe multinational qui est basé en Suisse, décide de congédier 830 salariés. Et les 830 salariés l'apprennent en fait par un mail qui arrive sur le bureau du comité d'entreprise. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est en Suisse, qui appuie sur un bouton, stop eject, delete, et tu as à l'autre bout des ouvriers, des familles qui apprennent, qui perdent leur travail, comme ça, juste avec un mail, comme ça, qui appuie sur un bouton. Et ça reflétait en fait la désespérance de toute une région. Il y avait les mines qui avaient fermé il y a 20 ans plus tôt. Et puis là, l'une des seules usines qui reste debout, elle ferme à nouveau. Et là, je vois le Front National qui jusqu'à présent n'avait pas une conscience sociale très développée, qui se dit, tiens, il y a un beau coup à jouer, il y a des gens qui souffrent. Il y a de la misère, il y a du désespoir, et ils se disent, tiens, on va aller se nourrir sur les cendres du vieux monde, c'est-à-dire le monde industriel. Et c'est ça qui m'a touché, en fait. C'est-à-dire que dans cette région qui était une région communiste et socialiste, il n'y avait pas de droite là-bas.
Une terre de gauche blessée, devenue un terrain de chasse, c'est idéal pour l'extrême droite.
C'est ça. Il y avait une gauche qui avait déserté le terrain, c'est-à-dire qui était transformé en gestionnaire, en bon gestionnaire. Et il y a toute une population qui s'est sentie abandonnée, délaissée par cette gauche qui était censée les représenter.
Oui, par l'idée d'enquête et de jugement sur l'ancien maire.
Alors en plus, voilà, en plus de
les détournements.
Voilà, c'est ça, c'était multicouche. Et qu'en plus, il y avait un maire socialiste qui était un maire véreux corrompu. Et donc le Front National, là, c'était un peu un boulevard, quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'à ramasser les miettes, quoi.
Donc pendant 12 ans, tu vas faire comme un décryptage.
Ouais, c'est ça, en fait. Au départ, ça part d'un mystère.
On te voit te balader au milieu entre un tango de ce Steve Berriwa et l'ancien ex-socialiste, avec chacun dans son camp, ses petits vieux. Les grands électeurs,
c'est deux démagogues.
Et l'autre, voilà, à la samba, je dirais.
Ouais. Ouais.
Et entre les deux, voilà, il y en a qui te foutent des baffes comme ça sur la tête de caméra, sur l'objectif. C'est une vraie bataille, donc qui a duré 12 ans pour, en tout cas pour toi et.
Ouais, alors c'est une bataille parce qu'en fait les j'en ai fait deux des films, un en 2003 et un en 2014. Celui en 2003, en fait, il a été diffusé sur une petite chaîne locale.
Là, au pays des Gueules Noires, fabrique du Front National.
C'est ça. Et puis après, donc, fort de ce travail, je me suis dit, je vais déposer un nouveau projet de documentaire et j'espérais qu'il soit produit par une télévision française. Et là, on me dit, on a choisi. J'avais un contact avec France 2. Et là, le France 2 nous dit, ça ne va pas être possible, on préfère faire un portrait sur Marine Le Pen. Bon, très bien. Le producteur me dit, s'il n'y a pas une chaîne nationale, c'est compliqué, on n'y va pas. Et donc, en fait, j'ai fait ce film avec une souscription, en fait. C'est-à-dire avec ce qu'on peut appeler à compte d'auteur. C'est-à-dire que je suis parti sans aucune chaîne de télévision. J'ai réuni quelques copains et on s'est dit, on y va, quoi. On essaie de faire ce film et on essaie de ramasser un peu d'argent pour pouvoir le terminer. Et puis, on l'a terminé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une belle bagarre parce que c'est un film qui n'aurait pas dû se faire, en fait.
Ouais, même pour revenir plus donc en avant, beaucoup plus en arrière, tu dis donc dans ton ouvrage, filmer les immigrés. Mes recherches commencent avec le boom migratoire, les années 60. C'est en mars 60, 1960, en plein gare d'Algérie, que l'on trouve les premiers reportages sur la condition de vie des familles algériennes dans les bidonvilles de la banlieue parisienne. Il se termine en 86, au moment où les pouvoirs publics adoptent enfin le mot d'ordre « immigration zéro ». Pour revenir à cette phrase initiatique, tu dis que l'immersion de toute cette mémoire du petit écran nous renseigne davantage sur ceux qui filment que sur qui. Ceux qui sont filmés.
Oui. Oui. Tu veux que je développe ça?
Oui. C'est ta manière d'être et d'accepter de travailler dans le long terme sur des sujets qui sont fâcheux, qui fâchent, qui blessent. Et comment trouver le traitement juste et la.
Je pense pas qu'il y ait une seule conception du documentaire. Moi, ce qui me porte, en tous les cas, c'est le fait d'être un peu le poil à gratter, quoi. C'est-à-dire d'aborder des questions qui hantent notre société, mais en même temps d'essayer de les aborder avec du recul, et pas à la manière, justement, des reportages télévisés, qui, la plupart du temps, en fait, plus que d'informer, en fait, trahissent en fait le regard de celui qui filme, en fait. C'est vrai des immigrés, mais tu peux dire c'est vrai de tout. C'est vrai la manière dont les médias parlent des ouvriers, parlent des chômeurs, parlent des mouvements sociaux. Et en fait, c'est, ce qu'on voit dans les archives de télévision, c'est d'abord le regard de celui qui filme, en fait. Et à travers le regard des documentaires de télévision sur l'immigration, parce que c'était ça, moi, en fait, moi, ma question, c'est clairement l'imaginaire, en fait, qui prend le pas sur tout le reste, sur la réalité, en fait. C'est l'imaginaire de ceux qui regardent, de ceux qui portent un regard sur les immigrés. Voilà. Et c'est ça qui m'a le plus frappé. En fait. La force, en fait, du regard à travers le regard des documentaristes ou des journalistes. Qu'est-il arrivé au pays? La force du regard français, en fait, sur les immigrés. Le mouvement ouvrier français
est-il devenu, en l'espace d'une décennie, une terre de mission de l'extrême droite? Comment expliquer cette anomalie politique?
Oui. Donc, comment expliquer cette anomalie politique dont on travaille? Donc, on est toujours avec Filmer les immigrés, Edward Mills, Navif. Qu'est-ce qu'un immigré? Question piège, puisque tout étranger n'est pas forcément immigré. Ah. La principale difficulté de ce travail, pour moi, c'était le sujet en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on qualifier un sujet pareil que de sujet miné? Parler des immigrés en France, c'est un problème français, finalement.
Ouais, c'est un problème français, c'est un problème qui n'est pas que français maintenant, aujourd'hui. Ouais. Mais en Europe, la France est le pays. Est une terre d'immigration depuis longtemps. Donc c'est pas la première fois qu'on parle de l'immigration en France. J'aurais juste rappelé, nous on a en mémoire la période la plus récente. C'est en fait à partir du moment où Jean-Marie Le Pen et le Front National montent en France. Mais il faut se rappeler que dans les années 30, le nationalisme xénophobe avait encore plus voix au chapitre. Il y avait... Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas les lois antiracistes, notamment la loi Guesso. Mmh. C'est-à-dire que les racistes sont obligés de faire attention à ce qu'ils disent pour ne pas être poursuivis et accusés. C'est le cas de Zemmour. Etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces lois-là. Tout, ouais. Donc en fait, ils pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient. Et moi, je suis en train de faire des recherches depuis un petit moment là sur le discours xénophobe, nationaliste, d'extrême droite. Et en fait, il est encore plus violent qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Zemmour, à côté, c'est... Alors, il sort des atrocités, mais je peux t'assurer que dans les années 30... Et alors, à l'époque, ce n'était pas les musulmans ou les maghrébins. Non, c'était les Italiens qui étaient...
Le sujet de notre émission, Eddy, ce soir, il résonne. Il résonne parce que, de toute façon, 20 ans, c'est rien du tout. On voit ça par rapport au temps politique qui est très long. Ouais. Et tu dis aussi les chaînons manquants du récit dans ce récit, les angles morts du regard sur les immigrés, ce qui fait sens se trouve donc à la fois dans ce que les auteurs donnent à voir ou à entendre et dans ce qu'ils oublient de dire ou de montrer. Ouais. Comme dans une partition où les silences comptent autant que les notes.
Ouais.
Voilà, c'est... Il suffit que la question d'une catégorie d'immigrés se banalise au regard des normes de la société d'accueil pour que cette catégorie sorte immédiatement du champ des caméras. Cette règle d'or explique l'invisibilité des Italiens, des Polonais, dès les années 60, la disparition progressive des Espagnols et des Portugais, à partir au moment où ces derniers quittent les bidonvilles, dans les premières moitiés des années 70. Ouais. Donc, voilà, donc c'est une des couches comme ça, des successions de strates humaine avant que l'État se prenne en charge quoi, sur des questions aussi simples que proclamer droit au logement, des pierres.
Mais il y a un traitement différent. Il y a un traitement différentiel. C'est-à-dire que à partir du moment où on considère en France qu'il y a un problème de l'immigration, en gros, au milieu des années 70, c'est concomitant avec la crise pétrolière de 1973, à partir du moment où on considère donc qu'il y a un problème de l'immigration, entre guillemets, et bien à ce moment-là, étrangement, toutes les populations d'origine européenne qui ont pourtant été le socle de l'immigration depuis un siècle, l'immigration italienne, l'immigration belge, l'immigration portugaise, espagnole, etc. On n'entend absolument plus parler. De qui on parle à partir de 1973 et du problème de l'immigration, c'est principalement de fait des Algériens. Voilà, en fait, le problème de l'immigration, dès le départ, est considéré comme un problème des Algériens en France, et non pas de l'immigration en général.
Oui, et elle passe, cette présence de l'immigré dans les écrans de télévision, de zones, comme tu appelles ça, les zones d'ombre, aux zones de lumière. C'est-à-dire quand on veut basculer l'aiguille en aiguille, quoi, en fait, le regard en aiguillant toute la masse média dans un sens ou dans l'autre en fonction des stratégies et des gouvernances politiques et
c'est surtout en fonction de l'actualité, du climat idéologique, mais aussi quand même de l'imaginaire de ceux qui filment.
Oui, oui. On écoute cet petit extrait.
Hénin serait-elle la fille sacrifiée de la famille socialiste du Pas-de-Calais? Les socialistes auraient-ils fait le deuil de la classe ouvrière? Du monde ouvrier, du passé industriel, que restait-il? De la nostalgie, des friches et des appels au secours qui ne seront jamais entendus. Ce n'est pourtant pas de l'histoire ancienne. Le dernier fleuron industriel du bassin minier est tombé en janvier 2003. La plus grande fonderie de zinc d'Europe fermait ses portes après un siècle d'existence. 830 salariés congédiés, sans plan social ni indemnité, sacrifiés sur l'autel du rendement financier. Une expression fait alors son apparition. Les patrons voyous.
C'est le président, c'est Monsieur Ravara, c'est les ministres qui devraient parler pour nous. C'est pas seulement tout le temps les ouvriers qui devraient bouger. Quand ils voient leur Pas-de-Calais qui est en train de fermer tout partout, il y a l'art, les cristals d'art, que c'est l'endroit qu'on fait du cristal, ils s'en vont, tout ils ferment. Mais où on va, là? Où on va, là? Mais après, quand tout ils sont fermés, qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, laisse qu'on fasse,
c'est pour vous. Nous, on va dire, nous, on est en train de manger la croûte, on n'a même plus la mie de pain, on a la croûte maintenant à manger. Hein, et après, qu'est-ce qu'on va avoir?
Même pas la croûte.
Mais quand ça sera trop tard, les gens diront, ah, si j'avais su. Hein, c'est ça qu'il y a. Il n'y a personne qui bouge. Moi, je dis, c'est pas normal, c'est tout. Hein, c'est l'avenir, c'est pas pour le présent, c'est l'avenir qu'il faut penser.
Et nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Où est-ce qu'ils vont trouver du boulot?
Hein?
Ah oui, ça va aller mal, nos petits-enfants du boulot, ils vont être obligés d'aller à l'étranger.
Le Front National, je vais pas trop m'avancer. Il y a beaucoup trop d'émigrés et tout ce qui s'ensuit en France. Hein. Bon, c'est des gens comme nous qui sont là. Bon, le Front National faisait quand même quelque chose pour dire d'avoir un peu moins d'émigrés en France et tout ce qui s'ensuit, et qui pourrait peut-être nous faire continuer à travailler. Bon, ces gens-là sont ici, ils ont le droit de travailler comme nous aussi. Mais le Front National ferait... Pour moi, s'ils seraient au pouvoir, bon, ben, je crois qu'on tournerait quand même. Parce qu'ils se battraient pour dire de nous faire travailler.
Là on peut couper.
Non, ça va trop loin.
Ah ouais, je suis pas d'accord.
Pourquoi?
Ah, parce que moi, je mange, je me lave, je travaille, il y a tout, il y a des Marocains, il y a tout ça, on suit ensemble. Voilà. Ben, je suis désolé, moi je suis aussi,
aussi
petit-fils d'immigrés. Non, il y a eu beaucoup de départs en retraite. Bon, je parle dans mon secteur. Les départs qu'il y a eu, c'est beaucoup de Marocains. Je suis désolé, depuis qu'ils sont partis, on a perdu le savoir et le courage. Non, mais ça, c'est pour...
Ça, c'est vrai.
Parce que c'est des gens qui n'ont jamais compté leur sueur, attention.
Qu'est-ce que je voudrais dire, moi? 33 ans de boîte?
Non, je sais
bien. Je devais sortir ici au moins ce mois-ci.
De ceux qui m'ont appris à travailler ici,
ah,
je ne peux pas me permettre ça, parce que c'est des gens honorables et respectables. Et la seule... Je vais peut-être même dire que Le petit truc qui me donne envie de me battre, bon, mis à part pour ma famille ou pour les enfants, c'est aussi pour eux.
Donc voilà. On est, pour continuer donc sur le document de recherche, le point de basculement entre ces deux périodes coïncide avec la fin des Trente Glorieuses. On est au crash boursier, 73, l'effondrement de l'économie mondiale, l'entrée dans la crise et l'émergence du chômage de masse posent inévitablement la question de la présence des immigrés. Et ce d'autant plus que ces derniers sont perçus depuis les années 60 comme une simple main-d'œuvre d'appoint. Et sur l'ensemble de la période, donc 60-86, c'est la période de ton sujet de recherche, ces comptes de documents évoquent la question des rapports entre les Français et les immigrés. C'est sous le signe du conflit que se décline cette relation, du racisme ordinaire aux attentats meurtriers, des pratiques discriminatoires à la haine de l'autre. D'une époque à l'autre, 60-73, tout ça constitue qu'un axe journalistique mineur. Il n'apparaît comme un aspect secondaire de la condition des immigrés qu'à partir de 74, où le racisme s'impose comme une problématique centrale et se hisse. Donc on voit que c'est quand même un processus, cette haine de l'autre, cette image que l'on fabrique, que fabrique le petit écran, finalement.
Oui, mais je te dis, ça relève toujours de l'imaginaire. C'est-à-dire que les cinéastes documentaristes de gauche vont avoir une tendance à victimiser les immigrés, d'avoir un regard un peu compatissant, commisséreux, mais toujours un petit peu surplombant. C'est-à-dire qu'on les aime bien. Ils sont opprimés, donc ça correspond à toutes les thèses du marxiste sur l'exploitation de la classe ouvrière, mais de ces immigrés, ces ouvriers immigrés qui sont doublement exploités, parce que victimes de l'oppression capitaliste, etc., de l'exploitation, mais aussi victimes du racisme, donc doublement opprimés, ouais. Mais avec un regard un peu commissaireux, victimisant en fait. Et puis de l'autre côté, il y a un regard stigmatisant, cette fois-ci, qu'on connaît. Hein, je n'ai pas besoin de t'en faire un détail. C'est celui qu'on connaît encore aujourd'hui, qui dévisage les étrangers comme une espèce, une sous-catégorie en fait, de citoyens dont la seule présence est justifiée par le travail. Donc une fois qu'il n'y a plus le travail, ben, les immigrés n'ont plus de raison d'être en France. Et au moment donné où le pouvoir envisage des politiques de retour dans les années 70, sous Giscard d'Estaing, là, la grande surprise générale, ceux qui prennent... Tu sais, c'est les 10 000 balles et casse-toi. C'est-à-dire que le gouvernement français va donner 10 000 francs. L'aide au retour. On va donner 10 000 francs aux immigrés et ceux qui sont la cible de cette mesure-là, dont on attend qu'ils partent avec le chèque de 10 000 francs, c'est les Algériens. Et à la surprise générale, les Algériens, ils restent. Et ceux qui partent, c'est les Portugais, dont on dit qu'ils sont des bons immigrés, exemplaires, qui ne posent pas de problème en France, etc. Donc finalement, et là, on s'aperçoit que le mythe du retour est en train de s'effriter, que les gens s'installent, ils sont là, ils ont des enfants, les enfants ont des amis, vont à l'école en France, ça. Et là, tout d'un coup, on découvre que ce n'est pas juste des oiseaux de passage, qui ne sont pas là juste pour faire prospérer la France, son économie, ses infrastructures, mais qui commencent à avoir une place dans la société française. Et ça, c'est une surprise totale, à la fois pour... la droite, mais aussi pour les gens de gauche, qui aussi avaient voilà. Complètement instrumentalisé l'immigration et les considéraient comme des oiseaux de passage destinés à rentrer dans leur pays pour aller construire, développer leur pays.
Oui, tu dis vers le début des années 60, donc jusqu'au milieu des années 80, puisqu'on sort donc on commence à sortir progressivement de la crise. Les reporters de sensibilité gaulliste ou giscardienne voient dans l'immigré nord-africain un indésirable.
Oui, mais comme dans les années 30, ce même camp voyait les Italiens comme des indésirables.
Voilà, encore une décennie avant, quoi. Tandis que leurs confrères classés à gauche, tout particulièrement les chrétiens progressistes et les communistes, l'envisagent comme une malheureuse victime.
Oui.
Les visions peinent à se débarrasser de ce carcan binaire entre stigmatisation et victimisation. Oui. Tu peux nous envoyer un quatrième extrait, s'il te plaît, Sidi ? En clair, tu dis, l'image nous informe davantage sur la société qui la regarde que sur elle-même.
Oui.
Je rejoins ici le point de vue de Benjamin Stora, selon lequel les images permettent de saisir l'imaginaire d'un fait historique plus que d'en rendre compte. Leur force est d'abord l'évocation, la restitution de la mémoire.
Le Pen. Le Pen. Marine Le Pen. Le Pen. Philippe Sommel.
Tous les pronostics donnaient Marine Le Pen vainqueur de ce scrutin qui allait lui ouvrir les portes de l'Assemblée nationale. À la surprise générale, c'est Philippe Kemel, le candidat socialiste, qui l'a emporté. Avec 50,11% des voix au second tour et 112 petites voix d'écart.
Philippe Kemel.
Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé dès le premier tour, le duel des tribuns qu'on nous avait survendu n'a finalement pas eu lieu. La présidente du Front National pouvait se consoler. Dans les bureaux de vote ninois, elle recueillait 54% des suffrages, avec un pic à 63% à Beaumont. Voici l'autre visage d'Hénin Beaumont, sa face ignorée. Aucune équipe de télévision ne s'est aventurée jusqu'à Beaumont. C'est pourtant là que prospère le Front National des Champs, le bureau de vote où le FN réalise ses meilleurs scores dans toute la ville. L'électeur frontiste de Beaumont, petit fermier à la retraite, chef d'entreprise ou cadre supérieur, ne correspondait pas au profil type du prolo gaucho-lepéniste. Seule la plèbe grondante ne pouvait voter qu'avec ses pieds, mais pas le petit bourgeois d'à côté. La clé du succès du Front National à Hénin-Beaumont est d'avoir réussi ce tour de force. Attirer dans ses filets à la fois les déçus de la gauche et les déçus de la droite, en ramassant la mise auprès des naufragés de tous bords.
Oui, voilà. Donc on était à cette force des images croisées, la petite lucarne, la télévision, une recherche d'Edouard Milsafif. Je vous conseille d'aller voir de près cet ouvrage paru dans les éditions INA, Filmer les immigrés. En clair, l'image nous informe davantage sur la société qui la regarde que sur elle-même. La divine surprise est la puissance d'évocation et de restitution du regard français sur ces immigrés. Est-ce qu'elle offre la production audiovisuelle? Comment ne pas voir à travers le regard? Comment ne pas voir à travers le regard de certains auteurs l'expression d'un malaise logé au cœur de la société elle-même? Il ressurgit dans la manière de représenter l'autre à l'écran. On y découvre le poids envahissant du contentieux franco-algérien, cet héritage encombrant et provoquant de continuels transferts de mémoire froissent le visage de l'immigré dès que ses traits rappellent ceux de l'ennemi intime. Donc, le début de cet ouvrage, j'ai lu cette phrase avant d'aller rejoindre. L'accouchement du regard face aux immigrés a mis du temps à venir, mais aujourd'hui, dis, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Le regard télévisuel sur le monde des immigrés, aujourd'hui, c'est les réfugiés, puisqu'on est en période de guerre. Bizarrement, parce que voilà, il y a une alternance, comme en politique de gauche à droite, des alternances entre des moments de paix et des situations de guerre, comme aujourd'hui. Et ça change aussi de regard, ces événements qu'on traverse, par rapport à cette question qui pèse, elle, par contre, quand même assez lourd sur La question de, qui se pose d'ici là, le 10 avril. Le
premier ça fait 40 ans hein, en fait, hein, que la vie politique française est polluée par ces questions-là, et puis surtout par la grille de lecture de l'extrême droite qui a réussi quand même à imposer ces thèmes au centre de la vie politique. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, quand je suis né en politique dans les années 80, en fait, je suis né avec... Alors je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent, mais il y avait un grand événement qui s'est produit, qui est en 1983, la marche pour l'égalité et contre, que ensuite la presse a appelé la marche des beurs. Mais au départ, ça s'appelait la marche pour l'égalité et contre le racisme. En fait, ça faisait suite à un été sanglant où 11 jeunes, partout en France, et notamment à Marseille, avaient été tués comme des lapins par de ce qu'on appelait à l'époque les tontons flingueurs. Donc des racistes qui avaient sorti les fusils parce que en bas, des jeunes faisaient trop de bruit. Et donc, en fait, la marche pour l'égalité contre le racisme, en fait, vient après cette chronique sanglante, tu dis 11 gamins qui sont tués en 1983. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, alors, je ne sais pas si on peut comparer les choses, parce qu'il y a peut-être moins de chroniques criminelles du racisme. Le racisme tue moins, mais les mots sont de plus en plus violents. Et on peut se dire que les mots, à un moment donné... sont des appels à passer à l'acte. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits actuels, hein, présents, de petits attentats racistes un peu partout, qui laissent présager en fait, que le discours de Zemmour ne soit pas simplement des mots, mais soit aussi des mots qui tuent. C'est-à-dire qu'il y a du sang dans l'encrier. C'est pas neutre. C'est pas neutre ce qu'il dit Zemmour. Et à force de l'entendre parler sous toutes les ondes, il se pourrait que des gens puissent avoir envie de passer à l'acte de ces discours. Et en fait, je me demande s'il y a des correspondances aujourd'hui dans oui, je pense qu'il y en a une. Je n'ai pas étudié les images sur l'immigration aujourd'hui, pour être franc. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est la différence de traitement des réfugiés. Entre les réfugiés syriens d'il y a quelques années et les réfugiés ukrainiens aujourd'hui, il apparaît clairement que derrière ce traitement différentiel, il y a une conception qui est la conception d'une Europe blanche et chrétienne. Et que un seul exemple, c'est quand des Ukrainiens faisaient la file pour entrer en Pologne, il y avait des étudiants... ukrainiens d'origine africaine, donc ils faisaient leurs études en Ukraine, et quand ils sont arrivés à la frontière polonaise, on leur a dit non, vous n'êtes pas des réfugiés là, bien comme il faut, mettez-vous sur la file de gauche, et ils sont encore dans les camps de rétention. Donc moi c'est ça en fait qui transparaît, c'est-à-dire d'une conception de la nation française ou européenne. Où on ne peut être légitimement français ou européen que si on appartient au bloc européen, blanc, chrétien. Et dès que vous ne faites pas partie de ce bloc, vous êtes considéré comme un intrus dans la famille, dans le club, soit de l'Europe, soit de la France.
Oui, donc, pour continuer un petit peu dans la chronologie de ton sujet, Edouard, tu dis qu'à partir de 83, il y a comme un inversement de la problématique. Parce que tu dis ceux qui incarnaient l'icône, la figure de l'immigré, ne sont plus des immigrés. Et tu racontes ceci dans tes premières pages, ce sont les hommes, les pères et les frères qui sont la cible. Ce nouvel élan devenu féministe. Ces derniers apparaissent de manière univoque comme des tyrans prêts à n'importe quel abus pour maintenir leur domination arbitraire sur leurs femmes. La nature de l'oppression n'est plus la même. D'économique, elle devient culturelle. Le visage de l'oppresseur change lui aussi. celui qui, depuis deux décennies, avait incarné à l'écran l'image de la victime, inoffensive, se métamorphose soudainement en bourreau. Le sacrifié devient le sacrificateur, l'opprimé, l'oppresseur. Ouais. C'est quand même voilà, dingue comment est-ce que la télévision... on comprend très bien pourquoi les... Depuis une génération déjà, ne regarde plus la télévision. Il fuit la télévision. Il fuit les événements. Il fuit la lecture des mass-médias, la télévision. Et on les accuse, nous, peut-être d'être indifférents à l'actualité. Peut-être ils n'ont pas l'esprit. On les accuse de manque d'esprit critique ou de problèmes dans ce genre.
Moi, je ne veux pas condamner en bloc. Hein. Je pense qu'il faut un peu nuancer. C'est-à-dire que à la fois, ces visions-là, elles sont stigmatisantes, elles sont... On les voit en prime time, on les voit au journal télévisé. Et en même temps, il y a des choses aussi très bien à la télévision. Moi, j'ai vu des choses magnifiques sur Arte, mais pas seulement, et qui sont des documentaires avec un regard... avec un regard qui n'est pas pollué par l'idéologie. Il y a des choses quand même très, très, très intéressantes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, que le rôle documentaire sur ces questions-là, c'est de recoller les morceaux des pots cassés par les journalistes des actualités de l'information, des journalistes, quoi, en fait. Et que qui, eux, faute de temps, je ne sais pas, par... Je pense d'abord faute de temps. En fait, reproduisent machinalement en fait tous les stéréotypes. Et je pense que c'est ça le critère discriminant. En fait, c'est le temps qu'on a pour porter un regard juste sur les choses. C'est-à-dire que toi, comme moi, comme n'importe qui, je pense que on nous dit demain, va faire un reportage sur les écoles à Roubaix. Je suis persuadé que toi comme moi, on arrive, si on n'a pas le temps de dépolluer notre regard, on arrive et on véhicule tous les clichés qu'on a sur Roubaix, sur le Nord, l'inceste, le machin, etc. Parce que l'imaginaire, ça imprègne nos esprits. Et c'est en fait, à défaut de pouvoir rentrer vraiment dans un univers, de s'imprégner de cet univers, d'apprendre les codes de cet univers, qu'est-ce qu'on fait ? On reproduit machinalement les stéréotypes qu'on a dans la tête. Et ça, c'est... Et c'est pas parce que les journalistes seraient plus méchants que n'importe qui d'autre, c'est qu'on ne donne pas suffisamment de temps aux journalistes pour justement faire ce travail de dépollution du regard.
Oui, tu le dis, la polarisation des regards sur les anciens colonisés résulte d'une auto-représentation de la nation française en termes éthiques et confessionnels.
Ethnique, oui.
En raison de la persistance de ce que le politologue Samir Nahir appelle l'obscur noyau dur de l'identité nationale.
Ouais.
Et c'est enraciné, en fait.
Et oui, il faut faire... Et puis ça prend du temps de faire bouger. Tu sais, c'est Kateb Yassine qui disait la présence française en Algérie a duré 130 ans. Il nous faudra deux fois plus de temps pour décoloniser les regards. Et je pense que c'est ça, en fait. On est là-dedans, en fait. On est encore là-dedans. Alors qu'on aurait pu aller plus vite. Mais nos imaginaires sont tellement imprégnés de cette histoire coloniale qu'on va mettre du temps à s'en débarrasser.
Il n'y a pas eu un seul incident. Pas une seule voiture brûlée. Pas même un concert de klaxons dans les rues du centre-ville. Le stade ultime de la banalisation. Bientôt, les caméras de vidéosurveillance auront remplacé les caméras de télévision. Hénin, la promise du FN, sera-t-elle la vitrine du frontisme municipal ou bien le laboratoire de la riposte au Front National ? We'll be right back.
Si tu peux nous redire cette phrase qui apparaît dans ce générique de film à la fin.
Ah, c'est une phrase de Léon Blum en 1938, on va dire, qui dit « Les seuls combats perdus d'avance, c'est ceux qu'on ne mène pas. » Voilà.
En tout cas, ce Stevie Briouat, il est toujours aux manettes.
Il est toujours aux manettes. Et puis, ouais. Il a été réélu pour la deuxième fois aux dernières élections municipales. Il a fait 70% des voix.
Donc, comme tu dis, ça reste quand même le laboratoire, enfin, l'arrière-boutique du Front National,
ouais.
Des expériments. Oui,
ouais, 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 ça, ça, ouais, c'est ça. Ouais, ça reste le espèce de laboratoire du ce qu'on peut appeler le frontisme municipal. Où ils ont essayé de démontrer qu'ils étaient capables de gérer des villes, d'être des gens compétents, et donc de préparer les élections présidentielles avec la stratégie de Marine Le Pen, qui était de gagner en crédibilité, puisqu'elle s'était aperçue que dans les sondages, c'était son point faible, son
talent d'Achille. Elle en a fait un point fort, c'est-à-dire le bastion socialiste conquis.
C'est ça, et puis dans les milieux populaires, c'est-à-dire que son père, en fait... avait un électorat quand même plutôt couche moyenne supérieure, de petits commerçants, notamment dans le sud de la France, avec la présence aussi des pieds noirs. Et là, Marine Le Pen sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut conquérir, pour pouvoir élargir son électorat, il faut conquérir les couches populaires. Donc elle va choisir Hénin Beaumont comme un laboratoire d'expérimentation de sa conquête des couches populaires, et surtout de sa conquête des couches populaires désorienté, désabusé, désespéré, et en quête donc d'un nouvel espoir qu'elle va incarner à Hénin Beaumont, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas, à Hénin Beaumont, la preuve, c'est qu'ils sont réélus.
Et oui, c'est l'expérience du réel, et c'est paradigme, parce que les intentions des uns ne sont pas celles des autres, les objectifs des uns ne sont pas ceux des autres. Et c'est vrai que tu as souvent parlé, tu parles souvent, Eddie, de la dépollution du regard, et si peut-être le cinéma il peut aider, ce serait. Et de quoi en quoi le cinéma peut-il dépolluer justement le regard? Par exemple, en parlant du documentaire, tu insistes à dire que dans ta filmographie, il y a pas que le documentaire, il y a pas que les reportages aussi. Tu en as fait pas mal au début. Donc, et moi, quand j'ai vu La fiancée du Nil, par exemple, ce sont d'autres expériences. Et tu insistes à me dire que c'est du documentaire. Moi, je oui, mais voir ce, tu dis que c'est là que c'est un véhicule d'idées. C'est le documentaire, c'est le médium de c'est notre médium de masse. C'est pas la télévision. Et entre les formes et les styles, quand la parole n'est plus le seul outil que l'on a pour exprimer un geste, c'est juste un rapport de confiance qui nous sauve, qui est notre ligne de vie, qui devient notre ligne de vie pour rendre les gens encore plus beaux qu'ils ne le sont en réalité.
Ouais.
Et comment traverser le temps long aussi? Tu parles de la narration. On passe d'un champ, c'est vrai. Moi, quand je vois La fiancée du Nil, par exemple, je vois même ton dernier documentaire d'Al Taliba, où tu m'avais demandé, oui, que je t'avais demandé de voir et que tu m'as fait découvrir. Et tu m'as dit, je ne le montre qu'avec prudence, mais attention, car je ne suis pas entièrement satisfait.
Ouais.
Je te parlais, par exemple, dans le cas de La fiancée du Nil, que c'est de la fiction documentaire. Et ce que disent ces images. Tu peux nous faire, Sidi, s'il te plaît, La fiancée du Nil. Si tu peux nous faire passer un petit extrait. Oui, tu parlais donc de la narration qui permet cette distanciation et les hors-champs nécessaires.
C'est un extrait.
Taki Amor. Amor Zaba. Taki Amor. Amlay. فين تملكوا سايرين مبسوطين قوي بوجودي يعني؟
هبة جالها عريس من نشاص وقرينا الفاتحة وشبكناها، لبست ذهب هي الدبلة ومحبس وخاتم، وراحت هي امبارح اتفرجت على الشقة هناك ونقت العزال بتاعها من الكتالوج، جابوا لها كتالوج نقت العزال اللي هي عايزاه. وهم
طب يعني عرفوا بعض ازاي يعني؟
عرفوا بعض، هم شافوها في فرح داليا.
هو الواد شافها في فرح داليا
اقتنعت بيه وبكلامه وبرأيه وبشخصيته، مع ان يعني شخصيته عالية جدا وطيب جدا ومحترم جدا.
وطبعا ده برأيها هي وباقتناعها هي، وهي اللي اختارت وهي اللي نقت.
اللي اختارت؟
لا اله
اختارت بعد ما شافت واتكلموا مع بعض.
شافت وقالنا يعني. وقلت لها انا مش هتكلم معاكي في اي حاجة، اقعدي معاه اقعدي معاه وكلمي معاه عجبك ماشي. ورغم ان احنا كنا كان جالها عريس من العاشر واتفقنا ورحنا وشفنا الشقة وهي اقتنعت بيه.
يعني ده امتى الكلام ده؟
قبل بتاع نشاص بقى.
يعني امتى يعني؟
10 15
يوم. امتى؟ 20 يوم.
من 20 يوم يعني في ظرف 20 يوم جالها عريسين وافقت على واحد منهم.
يجي 5
5 6 يجي 5 6 ده يمشي وده يجي، ده يمشي وده يجي، وده يمشي وده يجي. وبعدين هي بقى صلت صلاه استخاره وكده وقالت انا مرتاحه.
صلاه الاستخاره قالت لا بالي يعني؟
لا هي قالت انا مرتاح. قالت انا مرتاح خلاص انت حر.
دي طفايه واللي ريحك في دوت عن التانيين يعني؟
شخصية محترمة جدا وطيب وكويس.
Tu me résumais un petit peu le film.
En fait, moi j'avais un ami qui s'appelle Chérif, qui était donc égyptien, qui était étudiant en cinéma en France. Et moi, il se trouve que mes grands-parents viennent d'Égypte, mais j'y suis jamais allé, j'étais jamais allé. Et puis il me parle de sa famille. Une semaine après, il m'appelle, il dit voilà, il y a les billets d'avion qui sont vraiment pas chers, si ça se dit. Allez, viens, on y va ensemble. Et je dis, ok, je regarde les prix, c'est pas cher. Donc, on achète les billets. Et moi, je suis quand même ému, quand même. C'est la première fois que je vois le pays de mes grands-parents. J'y étais jamais allé. Et donc, j'ai une petite émotion. Et puis, je me dis, tiens, je prends l'ascenseur et je mets une caméra en me disant, allez, on sait jamais si je m'ennuie là-bas. Que c'est à la campagne, etc. Je prends la caméra, comme ça je vais aller faire des plans, comme ça si je m'ennuie je vais aller faire des plans. Je prends un micro, un casque, et on part. Et on arrive là-bas, donc avec Chérif, qui lui arrive donc de France, et qui découvre qu'il y a un scandale sexuel dans sa famille, que sa nièce, Heba, après avoir été fiancée à son cousin, ils se sont embrouillés, il y a eu une dispute entre les deux, et les deux familles se fâchent. La famille du fiancé dit « Oui, c'est ça, on l'a surpris en train de donner un sex call, un appel sexuel à un autre garçon. On ne veut pas d'une traînée chez nous. » La famille de Heba, alors que c'est les sœurs, hein, parce qu'ils sont cousins, elle dit « Mais comment ça? Ils nous ont humiliés, ils ont traité ma fille de traînée. » Donc les familles s'embrouillent. Le problème, c'est que Heba, on apprend que Heba, elle n'est pas vierge. Et donc l'oncle, Chérif, lui, il va essayer de réconcilier les fiancés pour que l'honneur soit sauf, qu'ils se marient. Et donc,
il est idéaliste, il rêve que, oui, que les cœurs brisés...
De réunir les cœurs brisés, c'est ça son rêve. Sauf que ça ne va pas marcher comme il le veut. Et finalement, Heba va être mariée avec un homme qu'elle croise comme ça une fois. Et moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est que on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux, et on ne sait pas qui a raison, qui a tort. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est les zones de vérité et de mensonge. Et que le spectateur puisse se dire à un moment donné, il épouse le point de vue de la mère de Heba. qui dit elle, elle veut enterrer, elle veut se débarrasser de la patate chaude, et donc elle veut marier sa fille. Comme ça, l'honneur est sauf, machin, on lui fait croire qu'elle est encore vierge, et puis terminé. Qui a raison ? C'est elle, finalement, elle veut protéger sa fille ? Ou est-ce que c'est Shérif qui, lui, arrive avec des idées modernistes, machin, etc., qui veut essayer à tout prix de les réconcilier ? Qui a raison là-dedans ? C'est ça qui m'intéresse d'accéder, en fait, à la complexité des choses. Parce que sinon, ça aurait pu être très simple, hein. Il y a la lumière, la liberté, le mariage libre, etc. Et l'obscurité, les traditions, la religion, nanana.
Et ta relation avec ton acteur.
Ouais.
Comment ça a été le fait de faire ensemble
En fait, c'est un ami, en fait. Donc, c'est plus facile, hein, quand même. Hein. C'est que moi, il me propose on vit dans sa famille. Lui, c'est un peu le fils prodigue, parce qu'il est en France, machin, donc il revient, il est chargé de cadeaux, etc. Donc moi,
il est aussi réalisateur.
Et il veut faire des films, en fait. Oui. Donc, il l'a fait, d'ailleurs, ce film-là. Mais c'est son premier film, il est étudiant de cinéma, il est passionné de cinéma. Et il rêve de faire des films. Donc là, en fait, il réalise son rêve, en fait. Donc c'est plus facile parce que...
Une présence, mais dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que le mec, il est tellement vrai face à la caméra. On ne peut pas soupçonner que qu'on est dans un moment documentaire. On se dit, on est dans la fiction.
Mais pourquoi ? Parce que les gens, ils prennent plaisir à jouer.
C'est ça, non, mais il est...
Et c'est pour ça que tu as l'illusion que c'est, tu m'as dit, c'est une fiction documentaire. Non, tout est documentaire, sauf qu'il faut... Il faut faire avec le plaisir des gens, la gourmandise des gens à jouer devant une caméra. Et regarde, et donc le film que j'ai fait un petit peu plus tard au Maroc.
Il est passé en Égypte
Non, il n'est pas, malheureusement, il n'a pas pu passer en Égypte. On a demandé à la famille, ils ont dit non, c'est pas la peine de. On risque d'avoir des ennuis, c'est pas la peine. Mais tu vois, au Maroc, donc j'ai tourné dans un pensionnat de jeunes filles, en fait des jeunes filles milieu rural, de milieu rural, et qui poursuivent les études grâce à un pensionnat qui s'appelle Dar Taliba, la maison de l'étudiante. Mais là, pareil, ce qui est intéressant, c'est de jouer, c'est le jeu. Et au Maroc, moi, j'ai l'impression qu'il y a que des comédiens professionnels qui ont un tel talent. Moi, je me rappelle encore toujours de ce moment. Il y a une des actrices, c'est pas du tout une actrice, mais une des gamines du pensionnat, Radija. Je lui dis, écoute Radija, voilà. Donc c'est des dortoirs où il y a les casiers, où le matin, elles ouvrent le casier, elles mettent leur blouse, et après elles vont à l'école, au collège. Et je lui dis, Radija, tu sais ce que tu vas faire ? On va faire un plan, là. Tu ranges tes affaires sur ton lit, tu vas au casier, tu prends tes cahiers... Tu ranges tes cahiers dans ton cartable, tu mets ta blouse et tu sors du champ. Et là, je vois la Radija, elle fait ça, mais avec comme si elle avait 25 ans de métier. Elle se reprend la blouse, elle fait un petit pli dans le col avec un petit geste délicat.
Tu peux nous faire passer, Sidi, s'il te plaît, un extrait de ce film, Dar Taliba. On parle de Dar Taliba, il y a un petit extrait. Peut-être à écouter, mais c'est vrai que c'est émouvant quand même de voir cette caméra. Elle n'est pas intrusive, ta caméra. Ouais. C'est ça ce qu'on remarque. Et malgré tout, les affaires de coulisses, on pourrait appeler ça, que tu m'avais raconté. C'est déception de tournage, etc. Mais finalement, ça fait quand même quelque chose qui s'égriffe, qui se grave quand même. Parce que ça a provoqué, le film, il provoque. Des situations comme juste cette fête, peut-être naïve.
Je تكمل علاش ما تكملش الا لقات كي دير الزمان والنحاس والنقرا باقي بنادم باقي
المراجعه الدراسه راه غتوصل لك باش تكوني عالميه علاش لا وتكون طبيبه وتكوني مهندسه وتكوني قانونيه حقوقيه ودافعي على البنات ودافعوا على البنات ديالكم على المنطقه ديالكم ودافعوا على ريوسكم دفعوا من الحياة ديالكم ككل
Oui, c'est donc vers des sujets qui concernent des jeunes étudiantes, la femme en général, la condition féministe.
Dans le sud du Maroc.
Et ça, oui, ça se passe donc dans le village de
Amskloud, ouais.
Au Maroc du sud. Et ce qui est original, mais sans faire d'originalité, tu as toujours travaillé avec le même collectif, enfin avec Singeo,
Pania,
ouais. Multi-instrumentiste. Ouais. Compositeur autodidacte. Hein. Il joue la guitare comme à la clarinette, comme ou au saxo,
il comme, joue du bandoneon,
ouais, comme sur, au bout des doigts.
Du saxophone.
Et comment cette dualité aussi magnifique que que tu gardes toujours le même instrumentiste pour faire tes musiques de film.
Oui, de la même manière, de la même monteuse. Moi, je considère que le cinéma, c'est pas séparé de la vie. Moi, dans la vie, je suis très famille, en fait. Je suis très clan, en fait. Je suis très clanique. Je sais que c'est pas bien de dire ça. Mais en fait, j'aime travailler avec ma famille de copains. J'aime partir en aventure avec des amis. J'aime partager... Enfin, et le cinéma, c'est comme dans la vie, en fait. Il faut avoir une famille, sinon tu... élargie, hein, une famille élargie. Hein, mais je trouve que c'est important de travailler avec des gens qu'on aime et de manière artisanale, quoi. Comme des artisans, sans des équipes de ouf, avec 50 personnes sur le plateau. Moi, j'aime partir, on est dans une voiture, on met la caméra, le son, on est trois potes, et puis vas-y, on roule. Et on a l'impression d'être libre, en fait. Moi, c'est ça qui me... Je trouve que, autant que les films, c'est l'expérience humaine, en fait, qu'on en retient. Et ce sentiment de liberté qu'on a quand on est en tournage, quand on a l'impression qu'on va restituer le monde, qu'on goûte le monde, qu'on le dévore. Ça, moi, franchement, c'est un poison, quoi. Moi, c'est ça. J'arriverai pas à renoncer, en fait, à ça. Et je suis frustré parce que finalement, on passe beaucoup plus de temps devant l'ordinateur à écrire des projets.
À écrire, voilà.
Que à tourner. Et moi, en fait, si je fais ce métier-là, c'est pas pour me retrouver comme un bureaucrate devant mon ordinateur. C'est pour partager des expériences humaines. En fait, c'est un truc ethnologique, de faire partie de participer, d'être dans un décor auquel je n'appartiens pas. C'est de voyager, mais pas seulement voyager physiquement, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à l'autre, mais c'est aussi voyager soi-même, c'est-à-dire de se changer en fait au contact du réel et au contact de l'altérité. C'est ça, moi, je trouve, le sel et la magie du documentaire. C'est de pouvoir être là où on ne devrait pas être.
Oui, ben voilà.
Être au mauvais endroit.
Je te rejoins, parce que moi, pareil, je pense pas qu'il y ait des frontières comme ça, rigides, entre le reportage qui alimente, qui est au service du documentaire. Le documentaire, il est au service de la fiction, fiction du réel. Mmh. Et c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. Le fait de tourner avec une machinerie très Il gère, ouais. Très souple. Et de donner cette dimension à l'autre, le hors-champ, de vivre l'instant, et de nous le faire restituer, de nous le faire vivre aussi, qui fait la différence entre un cinéma que tu appelles un cinéma d'action. Tu le plaides, c'est presque ta plaidoirie, Eddie. Un cinéma d'action, tu parles d'un cinéma action, d'intervention, un cinéma d'intervention plutôt, pardon. Et toujours dans des situations un peu comme ça où il y a une malvie, il y a des implications subjectives, mais devant des faits objectifs et réels, mais une condition. Merci Eddie pour.
Ah, c'est fini.
C'est court.
Ah, d'accord.
Merde,
okay.
Et c'est très court notre.
Bah, merci à toi.
Notre tour d'horizon. Bien qu'on n'aura jamais fait le tour, Eddie. Ouais. Comment on va faire alors pour repartir de la cité des pieds noirs, pour reparler de plein de situations ici à Marseille autour de nous. Et Daniel Crin. Je réitère le titre de ton livre, Filmer les immigrés.
Mais ça fait longtemps. Hein.
Oui, ouais, mais il faut les filmer, il faut continuer à les filmer.
Ouais. Mais ça dépend comment, en fait.
Si encore ils existent.
Pas... Enfin, c'est
ils
pas tellement.
Ils existent encore. Hein.
Ouais, c'est
parce
ça,
que
ouais.
Là, ça y est, on est.
Ouais, c'est ça.
On a des réfugiés.
Ouais.
Misérables.
Ouais. Ouais. Mais faut filmer. Non, mais la question, c'est en fait, c'est la question du comment, en fait. C'est pas tellement est-ce qu'il faut filmer ou pas filmer, nanana. C'est la manière de filmer, en fait. C'est le comment, parce que le comment, il traduit, tu sais, c'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que la manière dont on met la caméra, la manière dont on interagit avec les gens qu'on filme, etc., dit énormément de choses sur l'imaginaire de celui qui filme.
Oui.
Tout dépend comment on regarde les gens. On peut très bien les regarder, mais ne pas savoir les regarder. On peut très bien les regarder et les dévisager, en fait. Et on peut très bien les regarder en étant sur un pied d'égalité, un pied de partage, un espace commun ce que disait Rouch, il disait d'anthropologie partagée. C'est-à-dire de vivre une aventure, en fait, une expérience humaine avec les gens qu'on filme. Voilà.
Eh ben, merci, Eddie.
Merci à toi,
pour ce voyage. Ouais. Dans des paradis de l'expérience du réel où on parlait, on a beaucoup parlé de choses certaines, de choses sérieuses et de choses imminemment pas très sérieuses, laisser faire le rêve. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci, Sidi. Et au plaisir de vous revoir le premier lundi dans 2 mois.
Hawa Jay Jay, Hawa Jay Jay, Hawa Jay Jay. Jay!